Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 20. Puis, donc j'ai lu le texte de Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 20. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, donc Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simple comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà, frères et sœurs, le texte de notre méditation de ce matin. Un texte qui nous renvoie d'abord, n'est-ce pas, à l'appel de 12 apôtres ou 12 disciples. On nous donne leurs noms. Et quand nous regardons dans ces noms, nous pouvons être étonnés de voir ou interpellés de voir, n'est-ce pas, qu'à chacun de, qu'à côté de, d'un certain nombre de noms, il y a des qualificatifs qui suivent. Ou, si vous voulez, il y a quelques mots qui identifient la personne. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi, quand Jésus appelle les 12, ou les 12 disciples, ou les 12 apôtres, vous savez qu'il avait d'abord changé le nom de Pierre. N'est-ce pas, Simon? Il lui a donné le nom de Pierre. Et nous connaissons que ces hommes, la plupart de ces hommes, étaient des pêcheurs de poissons. Nous nous rappelons qu'ailleurs, à Marc, il dit, même ici, il dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Mais ce qui me frappe ce matin, d'abord, c'est le fait que, en lisant le texte, je vois que Jésus s'arrête sur les choses, les détails. Par exemple, voici le nom des 12 apôtres. Vous avez, n'est-ce pas, Simon, on dit appeler Pierre et André, mais regardez tout de suite son frère. Pourquoi ajouter André, son frère? Parce que Jésus a appelé Simon. Mais nous voyons là qu'il dit, il est spécifié son frère. Et quand il s'agit aussi de Jacques, fils de Zébédée, nous connaissons les Zébédée, mais ici on dit « et Jean, son frère ». Quand nous regardons pour, n'est-ce pas, le Matthieu, vous regarderez, il va dire « Matthieu, le publicain ». Et quand nous lisons pour Simon, verset 4, on dit, pour distinguer de Simon Pierre, on dit ici « Simon, le cananite ». Et quand il s'agit de Judas, il est dit l'Iscariote. Et avec des précisions, c'est lui qui livra Jésus. Donc, je me suis posé des questions autour de ces éléments-là. Si c'était aujourd'hui, si on voit, n'est-ce pas, le frère Nicolas qui va travailler et on voit qu'il n'a que des gens, il est accompagné de son frère. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais c'est seulement avec ce frère qu'il est là-bas. Hein? Tout simplement pour dire que la fratrie n'est pas mauvaise. La fratrie. Donc, avoir des frères avec lesquels on travaille, biologique, n'est pas mauvais. Parce que Jésus nous montre ici que quand il appelle, il connaît pourquoi il appelle le deux. Tout comme il a appelé aussi, n'est-ce pas, des gens qui n'étaient pas accompagnés de leurs frères. Mais quand nous lisons dans les textes, on voit aussi que sur Matthieu, il dit le publicain. Donc nous savons quel était le métier, n'est-ce pas, de Matthieu. Par rapport aux autres qui étaient de pêcheurs, on voit ici qu'on met en exergue ce que Matthieu était. Comme pour dire, quand Jésus a appelé des disciples, Il n'a pas tenu compte de leur métier, ni du fait qu'ils venaient d'une même maison. Il a appelé de gens sur lesquels il avait, n'est-ce pas, des projets. Il a appelé de gens selon, n'est-ce pas, ce qu'il voulait faire d'eux. Lorsqu'il appelle Matthieu, il ne dit pas à Matthieu, n'est-ce pas, « Je veux faire de toi un publicain. » Non. Il lui dit tout simplement, « Lève-toi, suis-moi, un ordre. » Et Matthieu se lève, il laisse ce qu'il faisait, il le suit. Mais lorsqu'il appelle les pêcheurs de poissons, il leur dit, « Suivez-moi, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous voyez un peu. Donc Jésus savait pourquoi il a appelé ces gens. Mais aujourd'hui, nous sommes contents, vous et moi, du fait que Jésus nous a appelés indépendamment de ce que nous faisions, indépendamment de ce que nous étions. C'est ça que je voulais ici venir pour vous dire, que Jésus appelle indépendamment de ce que vous êtes. Mais il vous appelle pour être à sa suite. C'est la première chose que je voulais partager avec vous dans ce texte. Que Jésus nous a appelés indépendamment de nos métiers, indépendamment de nos fratries, indépendamment, n'est-ce pas, de ce que nous avons fait dans la vie, bon ou mauvais. Mais quand Jésus appelle un homme, appelle une femme, c'est pour faire de lui son disciple. C'est ça ce qui est essentiel dans l'appel que le Seigneur adresse à tout moment, à tout temps, à vous et à moi. Et là, j'aimerais dire, parce qu'il y a des frères et des sœurs, parfois après 20 ans, 10 ans, que Jésus les a appelés à être ses disciples, continuent à revenir sur leur passé pour dire, « Oh, moi, je suis, vous savez, j'ai été mauvais, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. » Oui, c'est vrai, vous avez fait tout cela. Mais aujourd'hui, Jésus, quand il appelle Pierre, n'est-ce pas, on verra qu'il ne va pas toujours lui rappeler, « Tu étais pécheur là-bas, je t'ai fait venir après moi. » Non, il veut aller avec lui plus loin. J'aimerais donc à vous, mes frères et mes sœurs, à moi-même, que nous puissions savoir que quand nous sommes venus à Jésus, nous avions, n'est-ce pas, des casseroles. Je veux dire, nous avions des choses que nous avons faites dans nos vies qui ne plaisaient pas à Dieu. Ou bien vous n'avez pas fait des choses comme ça, mais nous avons été tous pécheurs. Selon ce que la parole de Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été pécheurs, mais Jésus nous a arrachés de tout cela pour faire de nous ses disciples. Et s'il a fait de nous ses disciples, il nous invite donc à nous conformer à son appel. Il nous appelle. Nous devons le suivre. Nous devons rejeter ou jeter, n'est-ce pas, ce que nous avons été. Lorsqu'il nous a appelés, nous avons été pardonnés par Dieu. C'est pour que nous soyons ses disciples. Frères et sœurs, je voulais continuer en disant que lorsque nous regardons dans ce texte, n'est-ce pas, on voit que Jésus, quand il appelle les disciples, donc ce sont les disciples, les élèves, ils sont aussi appelés quelque part aussi apôtres. C'est pour dire qu'il avait la mission en les appelant, il les formait pour les envoyer, pour qu'ils aillent travailler. Et ici, dans le texte, nous avons vu, si vous regardez, au verset premier, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Regardez, Jésus n'envoie pas à vide les disciples. Les disciples que Jésus envoie, comme vous et moi, nous devons savoir qu'il nous a dotés de pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Mais est-ce que nous, maintenant la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous utilisons le pouvoir que Jésus nous a donné? Et si nous l'utilisons, la seconde question qui peut se poser est la suivante. Comment est-ce que nous utilisons ce pouvoir que Jésus nous a donné? Est-ce que nous l'utilisons pour nous faire valoir ou bien pour montrer aux autres qui est Jésus? Voilà, mes frères et mes sœurs, la chose que nous devions savoir, que nous ne sommes pas les disciples de Jésus qui travaillons, n'est-ce pas, sans pouvoir, sans rien. C'est que quand nous comprenons que Jésus nous a donné le pouvoir, nous pouvons donc allez travailler avec certitude que Jésus nous accompagne dans ce que nous faisons. Mais la plupart des fois, mes frères et mes sœurs, moi-même, des fois, nous ignorons que le Seigneur nous a appelés, que nous sommes des appelés. Et si le Seigneur nous a appelés, nous pouvons considérer cela aussi comme un privilège. Et ce privilège, vous pouvez voir autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens très intelligents que vous, très qualifiés que vous. Mais le Seigneur vous a choisi, vous. Le Seigneur m'a choisi. Est-ce que cela ne nous interpelle-t-il pas? Et la plupart des fois, nous ignorons ce pouvoir que Jésus nous a donné, que Dieu nous a confié. Et les autres, parfois mal intentionnés, qui savent que Dieu, Jésus, donne le pouvoir à ses disciples, vont aller de ville en ville, parlant, n'est-ce pas, comme ils peuvent, mais pour se faire valoir, pour rechercher des honneurs, alors que vous et moi, que le Seigneur a appelé, a qualifié, nous restons dans nos maisons, nous restons chez nous, nous restons dans nos activités, oubliant que même dans ces activités-là, le Seigneur nous a confié la mission, le travail. Nous avons le pouvoir. Je n'ai pas entendu les oiseaux, n'est-ce pas, chanter à l'extérieur, ils font leur travail. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs, c'est que nous avons reçu de Dieu, de Jésus-Christ. Mais nous voyons, n'est-ce pas, au verset 5, il dit, « Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après avoir donné les instructions. » On voit que Jésus, quand il nous appelle, il nous donne le pouvoir, mais ce n'est pas pour que nous restions assis chez nous, mais pour que nous puissions aller travailler. C'est la troisième chose dont Jésus nous envoie. Il nous envoie. Si vous avez regardé le texte que nous avons lu, il ne nous envoie pas aussi, n'est-ce pas, sans programme non plus. On voit que Jésus qui nous envoie, n'est-ce pas, nous donne des instructions. Après nous avoir enseigné, après nous avoir montré comment nous devons travailler, c'est alors que Jésus nous envoie. Jésus n'a pas pris les disciples le même jour et il les a envoyés. Non, on voit qu'il était avec eux tous les jours. Il les enseignait, il leur donnait des instructions. Et ici, on voit que Jésus envoie des disciples instruits, enseignés par lui. Et chaque jour, quand nous méditons, le Seigneur nous enseigne. Chaque jour, quand nous sommes en train de prier, donc nous parlons, le Seigneur nous instruit aussi. Chaque jour, lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons des instructions que Jésus nous donne. Donc, Jésus ne nous envoie pas à vide. Il nous instruit. Et avec ces instructions, nous devons aller. La quatrième chose que je voulais partager avec vous au travers de ce texte, c'est de voir que lorsque Jésus nous donne ses instructions, il donne des instructions précises. Il ne nous envoie pas n'importe où. Ici, avec les disciples, c'était comme un stage. Les disciples, après avoir étudié au pied de leur maître, il les envoie maintenant faire un stage. Et pendant ce stage, N'est-ce pas? Jésus donne à ses disciples l'enseignement qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils ne vont pas d'eux-mêmes non plus. Ils vont sous son ordre, mais Jésus leur a donné ce qu'ils doivent dire. Et c'est là que vous voyez au verset 7, « Allez, prêchez et dites le contenu de la prédication. Le royaume des cieux est proche. » On voit là le contenu de la prédication de Jésus-Christ. Mm-hmm. C'est la mise en garde. Il leur dit, « Allez, ce n'est pas pour bavarder. C'est urgent. » Donc la mission est urgente ici. Ce que vous devez dire, dites aux gens que le royaume des cieux est proche. Et pour les Israélites, ils savaient qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu qui est proche. Il leur dit, allez, enseignez, dites que le royaume des cieux est proche. Royaume des cieux, c'est parce que Matthieu, étant juif, il ne veut pas dire Dieu. C'est donc dire, allez, dites, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu est proche. Donc, Matthieu, les Juifs, les Hébraïsans, il ne veut pas citer le nom de Dieu. C'est pour dire royaume des cieux. Donc, on voit ici, mes frères et mes sœurs, que Jésus instruit ses disciples. Il leur indique là où ils doivent aller, parce que c'est un stage. Il nous dit, n'allez pas vers le païen. Ici, Jésus concentre son travail auprès de Juifs. C'est pourquoi il dit à ses disciples, allez vers la maison, les gens de la maison d'Israël. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais à la fin de sa mission, n'est-ce pas, Jésus dira que maintenant, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. On voit que le contenu, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle ne change pas. C'est le même. Allez prêcher la bonne nouvelle. Prêcher le royaume des cieux. Et comme nous avons dit que Jésus avait donné le pouvoir à ses disciples, on voit ici, il va les rejoindre aussi. Après la prédication, qu'est-ce qu'il leur dit? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez le démon. On voit ici que chasser les démons, purifier les lépreux, guérir les malades ne vient pas avant l'évangile. Mais c'est plutôt l'évangile en premier lieu. On doit prêcher l'évangile. Et quand on a prêché l'évangile, parce qu'on a reçu de Dieu, de Jésus, n'est-ce pas, le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, on va exercer le ministère. Donc on voit ici qu'il y a des ministères. Vous et moi, nous avons reçu de Dieu aussi le même ministère que les 12 de prêcher la bonne nouvelle. Et Paul dirait à Timothée, prêchez la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Donc, en temps favorable ou pas. Est-ce que pendant le confinement et le déconfinement, et ça nous empêche à prêcher la bonne nouvelle? Non. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à temps et à contre-temps.
Amen.
Et nous devons exercer le ministère que le Seigneur nous a confié. Mes frères et mes sœurs, contrairement à ce que nous vivons peut-être aujourd'hui, où on voit certains prédicateurs qui exigent de l'argent, qui demandent 500 euros pour que vous soyez guéri, pour qu'il prie pour vous, ou je ne sais pas combien d'euros. Est-ce qu'il y a, ou bien dans les églises où on a, ici aujourd'hui, je vais vous bénir. Alors, qui a 1000 euros qu'il mette ici, on va le bénir. Qui a 500 euros? Qui a 200 euros? 300? 100? 50? 20? Non, Jésus ne nous dit pas ça. Il nous dit, nous avons reçu gratuitement la parole de Dieu. Nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Tout ce que nous avons reçu gratuitement. Les dons spirituels, nous les avons reçus gratuitement. La vie éternelle, nous l'avons gratuitement. Et le Seigneur nous enseigne que nous devons aussi donner gratuitement. Mais mes frères et mes sœurs, vous savez, si nous étions là, nous nous mettions ici pour dire, nous avons reçu du Seigneur. Nous avons reçu du Seigneur, n'est-ce pas, les dons de guérison. Nous avons reçu du Seigneur les dons de miracles. Qui veut avoir des miracles aujourd'hui? Si vous voulez faire des miracles, venez. Si vous voulez obtenir la bénédiction aujourd'hui, venez. Je vais prier pour vous, vous aurez la bénédiction. Vous verrez que les gens viendront pour obtenir des bénédictions achetées. Non, Dieu ne nous envoie pas pour vendre les dons spirituels. Dieu ne nous envoie pas pour vendre l'évangile. Une telle évangile ne répond pas à ce que nous sommes en train de lire avec vous dans ce texte. Nous avons reçu gratuitement et le Seigneur nous envoie pour que nous puissions aussi donner gratuitement. Et dans le texte, vous avez vu le Seigneur qui enjoint à ses disciples de ne pas porter des sacs ou de ceci ou d'habits de rechange, tout ça. Il dit non, ce n'est pas utile. Allez tel que vous êtes, n'est-ce pas? Là où vous partez, on vous donnera de la nourriture. Et quand vous êtes dans une maison, vous êtes accueillis, n'allez pas de maison en maison. Restez là-bas, mangez là-bas. Pas aller de maison en maison. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que ses disciples, n'est-ce pas, soient respectés, que les disciples soient aussi honorés, si vous voulez bien, en restant en un seul endroit, en vivant dans un seul lieu où ils sont reçus, mais ils continuent à prêcher l'évangile.
Amen.
Jésus n'a pas voulu faire de ses disciples des mendiants. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, faire d'eux des gens, des faiseurs de miracles pour miracles. Mais il les envoie avec des instructions bien précises. Il envoie, n'est-ce pas, ici il dit, la maison qui vous reçoit, n'est-ce pas, reçoit la paix. N'est-ce pas que vous et moi, nous sommes des porteurs donc de paix.
Amen.
Quand nous entrons quelque part, ce n'est pas pour les désordres, mais pour y apporter la paix.
Amen.
Pour y apporter, n'est-ce pas, dans cette maison que nous, où nous entrons, y apporter la bénédiction. La bénédiction, c'est que la personne, les personnes là reçoivent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils croient à la bonne nouvelle. Comme nous avons entendu la fois passée, le dimanche passé, que la bonne nouvelle, donc, la parole qui peut sauver vos âmes. Quand nous enseignons la parole de Dieu, les gens l'entendent, reçoivent Jésus, ils sont sauvés, ils ont la paix, ils sont pardonnés, ils font la paix avec Dieu, et Dieu le reçoit aussi favorablement. Et nous continuons cette chaîne de formation. Vous devenez des formateurs. Frères et sœurs, n'est-ce pas, chacun de nous, dans nos communautés, dans les communautés que nous représentons, Dieu nous a envoyés, ou Jésus nous a envoyés comme des prédicateurs, à guérir, avertir, instruire, former, pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, être surpris. Mais le Seigneur nous a envoyés pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle au monde.
Amen.
Mais cette bonne nouvelle que nous apportons peut aussi, n'est-ce pas, faire que nous puissions être arrêtés, nous puissions être jugés, nous puissions, n'est-ce pas, être condamnés. Mais Jésus aussi, là aussi, Jésus qui savait que ses disciples ne vivraient pas seulement dans la paix, il y aura des tribulations, n'est-ce pas? Il leur a dit, n'est-ce pas, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais quand nous regardons dans le texte ici, il dit, c'est pas vous. Si vous êtes conduit au tribunal, c'est pas à vous de préméditer ce que vous devez dire. Au moment opportun. Donc, au moment opportun, le Seigneur vous donnera, n'est-ce pas, ce que vous devrez dire. Et là encore, on voit le Saint-Esprit qui entre en jeu pour dire que dans le témoignage chrétien, dans ce que nous sommes en train de faire comme travail, nous ne sommes pas seuls. Jésus, notre frère, nous accompagne. Jésus, notre Seigneur, nous accompagne. Et par son Esprit Saint, il nous donne, nous révèle ce que nous pouvons dire, faire. Même quand nous sommes, n'est-ce pas, devant des tribunaux, le Seigneur sait, au moment opportun, il sait vous donner ce que vous pouvez dire. Et là encore, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des tribunaux, mais nous nous trouvons devant des hommes et des femmes qui nous posent des questions parfois embarrassantes. Parfois, nous avons peur. Nous disons, mais si je parle, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup les versets bibliques ou je ne sais pas. Non. Confiez-vous au Seigneur. Le Seigneur vous donnera au moment opportun ce que vous pouvez dire. Et parfois, vous serez vous-même étonné, surpris de voir que le Seigneur, n'est-ce pas, vous donne des paroles qu'il faut. Et le Seigneur va confondre lui-même, par son esprit, va confondre votre adversaire. Quelle joie de savoir que nous sommes équipés, nous sommes instruits, nous sommes enseignés, nous sommes des envoyés, pas de n'importe qui, mais des envoyés de celui qui a connu les souffrances, qui a été crucifié, qui a été enseveli, et qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui vit et qui agit encore aujourd'hui. C'est donc là, frères et sœurs, un message qui doit nous encourager. Ce message, c'est pour nous encourager, pour que nous puissions savoir que le Seigneur agit avec vous, avec nous. Il agit. Le Seigneur n'agit pas seulement dans certaines communautés quelconques. Le Seigneur n'agit pas avec certains prédicateurs donnés. Non, frères et sœurs, le Seigneur agit avec vous. Au même titre, je dis bien, au même titre que celui-là, parfois en qui vous croyez. Mais il faut croire en Jésus. Et quand on croit en Jésus, nous devons lui faire totale confiance. Parce qu'il est avec nous, il nous guide, il nous dirige.
Amen.
Voilà les quelques paroles d'encouragement, mes frères et mes sœurs, pour dire aujourd'hui encore que Jésus vous appelle. Jésus nous appelle. Jésus nous a envoyé que dans nos maisons, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, et d'autres ont besoin aussi de la parole de Dieu. Parce qu'on a vu que le texte commençait par, n'est-ce pas, Jésus appelle celui-ci avec son frère. Je vous ai dit, mais pourquoi avec son frère? Le frère a besoin aussi du salut. N'est-ce pas? Pierre et André, son frère, ont été, n'est-ce pas, sauvés. Et puis, le fils de Zébédée, ils ont été aussi sauvés, tout comme les autres. Donc le Seigneur n'exclut pas les autres. Et il y a d'autres communautés où quand vous y êtes, on vous dit non, il faut rompre avec vos familles. Mais ce n'est pas la pensée de Jésus. Non. Nos familles, les membres de nos familles sont aussi
Amen, amen.
Important, n'est-ce pas? Ils ont aussi besoin de la parole de Dieu pour être sauvés. Nous ne devons pas les négliger. Nous ne devons pas dire non et ils ne seront pas sauvés. Non, Dieu a des projets pour chaque homme. Et si vous êtes sauvés, c'est pour que vous puissiez aussi annoncer aux autres l'Évangile, et qu'ils aient la possibilité d'être sauvés. ne nous décourageons pas, nous qui sommes parents, nous qui sommes grands-parents, ne nous décourageons pas. Même si on dit, bon, il a 18 ans, maintenant il ne veut plus. Oui, continuons à fléchir nos genoux pour prier pour que nos progénitures croient aussi en Jésus et soient sauvés. Jésus n'a pas cessé de travailler. Vous êtes ses disciples, donc je voulais dire, nous sommes ses disciples, nous devons continuer le travail. Prions le Seigneur. Merci notre Père céleste, notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ton appel, ton envoi en mission pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que tu entends nos cris, tu entends nos pleurs. Merci Seigneur, parce que tu connais nos frères, nos sœurs biologiques, tu connais nos enfants biologiques, tu connais nos petits-enfants biologiques, tu connais tous ceux qui nous sont proches, nos amis qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, donne-nous, n'est-ce pas, de la force, du courage, de l'amour pour eux, pour que nous leur annoncions ta parole dans la douceur et dans le calme. Aide-nous, Seigneur, à ce que ceux qui t'ont tourné le dos reviennent à toi.
Amen.
Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accorde la grâce de continuer à annoncer la bonne nouvelle, à guérir le malade aussi, à prier, Seigneur, pour des gens qui sont dans des situations quelconques, pour qu'ils soient délivrés et sauvés. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous utilises, nous aussi, chacun de nous qui avait un passé que toi tu connais, mais que tu as pardonné pour que nous soyons à ta suite. Nous te disons merci, Seigneur. Amen.
Amen.